midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs du changement. Aujourd'hui, gros plan sur les sports nautiques et vous allez voir que même sur l'eau, il y a, eh oui, des innovations tricolores. Elle existe depuis 1997, elle est née dans la tête d'un agriculteur. Mia et ses jus de fruits sont à l'honneur. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis un sac à dos qui marche, oui, mais à l'énergie solaire, c'est la solution, notamment pour recharger votre mobile. C'est Régic, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, comme chaque jour, vous avez la parole. Venez nous dire, Omblin, si vous aimez par exemple les sports nautiques, si vous faites du bateau, de la planche, du surf ou du kayak de mer.
Le standard d'Europe 1, 39-21, vous pouvez également réagir sur Twitter jusqu'à 14h avec le hashtag Europe 1.
Et pour accueillir nos invités, à mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Mercedes Serra qui est avec nous. Bonjour Mercedes.
Bonjour.
Cofondatrice de l'agence BETC, présidente exécutive d'Avas Worldwide. Et aujourd'hui, bah oui, on se jette à l'eau et vous allez voir que pour les sports de glisse, il existe tout un tas d'innovations. Bonjour Kevin Lestrade.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé la start-up By The Wave. Votre métier, si je résume, c'est de fabriquer des outils connectés pour les sports de glisse et plus particulièrement pour le surf. Il faut dire que vous avez toujours vécu au bord de la mer, d'abord à Tahiti, puis dans les Landes, ce qui a fait aussi de vous un surfeur de haut niveau, on peut le dire.
Exactement, oui. C'est ça, By The Wave aujourd'hui, ça concilie deux passions, la science, l'innovation, et puis bien sûr donc les sports de glisse.
En parallèle de cette passion pour la mer, évidemment, vous avez poursuivi vos études, mais avec toujours un pied sur le surf, si j'ose dire, parce que vous avez obtenu votre doctorat en biomécanique et robotique en 2016, et il est spécialisé dans les sports de glisse.
Tout à fait, ouais. J'ai eu la chance à la fin de mon école d'ingénieur de pouvoir tout simplement être recruté pour gérer un projet de recherche de 3 ans qui concernait donc la conception d'un simulateur de surf. C'était un projet cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine sur Bordeaux et donc on était vraiment voilà, dans ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire mélanger l'innovation, la recherche et puis le surf qui était ce qui m'animait au quotidien.
Et alors, pendant vos recherches, vous vient une idée, mettre des capteurs sur la planche pour essayer de connaître avec précision la position du corps.
Exactement. Alors, ce n'est pas une idée que j'ai eue seule, mais disons qu'en termes de recherche, on aime bien essayer de comprendre un petit peu l'environnement de ce qu'on étudie. Et effectivement, la première des choses qu'on a fait, c'est placer différents types de capteurs sur les planches de surf. Et c'est en plaçant justement ces différents capteurs qu'on a réussi à se rendre compte que finalement, on était capable de connaître, d'anticiper la position d'un pratiquant sur sa planche.
En 2017, vous créez finalement l'entreprise. C'est là que naît le Wave Catcher. Hein. C'est comme ça qu'il s'appelle, ce petit dispositif, ce petit boîtier.
Oui, tout à fait. Notre first to market, notre premier produit, comme on dit un peu dans le langage des startups, c'était un produit qui avait pour réelle ambition d'asseoir notre crédibilité dans les sports de glisse. Et en fait, on l'a voulu très simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on apprend un sport de glisse comme le surf, par exemple, eh bien, on utilise une combinaison, une planche de surf, et on va dans l'océan. Mais en réalité, même si on a ces trois choses-là, on ne surfe toujours pas. Parce que surfer, c'est être debout sur la planche.
Oui.
Et donc, il y a une frustration quand on n'arrive pas à être debout sur la planche. Et donc là, on a lancé un produit très simple d'utilisation qui, via un signal lumineux, permet d'indiquer au pratiquant quand est-ce qu'il doit se lever sur la planche.
Ça veut dire qu'il y a le petit boîtier, la petite lumière qui est au bout de la planche de surf.
Exactement.
Et au moment opportun, ça s'allume et c'est là qu'il faut se dresser.
C'est ça, tout à fait. C'est tout simplement ce petit capteur.
Oui.
Vous avez deux lumières sur le dessus.
Allez. Pour qu'on puisse le voir sur Europe1.fr.
Voilà, je ne sais pas si vous nous suivez sur Europe1.fr. Vous voyez, c'est un tout petit capteur. Donc, si j'appuie dessus, il va s'allumer
Non, j'ai désactivé.
Bon, vous l'avez désactivé.
Donc, levez-vous, Raphaël.
Je serais bien normal, là, pour le coup, de surfer. Il me manque les vagues. Hein, vagues.
Oui.
Sinon, c'est parfait. En fait, il y a deux petits boutons. Il y a un petit bouton pour marche-arrêt et puis il y a deux petites lumières qui
indiquent simplement, donc couleur verte, on peut se lever sur la planche, ça veut dire qu'on est dans le bon timing, donc on a ramé, on est bien positionné. Et puis, couleur rouge, ça signifie que, attention, il va y avoir une chute. Alors, on ne va pas empêcher le pratiquant de tomber.
Non.
Mais en termes de sécurité, c'est super important. Quand on démarre le surf, on est quand même dans un environnement assez hostile. Donc, c'est bien de rappeler au pratiquant, attention, il va y avoir une chute. On se rappelle les premiers gestes de sécurité.
Elisabeth ?
Mais c'est le cerveau qui va donc, il y a un moment d'attention, il va voir si la lumière est verte ou la lumière est rouge. Or, le surf, ce n'est pas une histoire de sensation, de ressentir les vagues, savoir quand on se lève, quand on reste assis.
Ça, c'est après, quand on sait surfer, non ?
Oui, mais là, le cerveau est plus attentif à la lumière plutôt qu'à ce que doit faire le corps, non ?
Exactement. En fait, vous êtes en plein dans le sujet. Il s'agit vraiment d'un outil complémentaire d'aide à l'apprentissage. C'est surtout pas un outil qu'il faut utiliser tout le temps, en permanence. Et donc, le principe était très simple. Nous, on a mis ce dispositif à disposition dans un certain nombre d'écoles de surf et de locations de matériel où les profs de surf, par expérience, l'utilisent en moyenne une session sur trois. C'est tout simplement pour mettre, on va dire, des temps de rappel, justement, pour essayer de faire rentrer
prendre les bons réflexes.
Voilà, ce réflexe-là de timing et de se lever au bon moment.
Que dit notre coach ?
Moi, j'adore. Je trouve ça généreux parce que quand même, nos surfeurs, là, ils avaient l'air d'être tout seuls. Et nous, on se disait, est-ce qu'on y aura droit ? Et donc, d'avoir la gentillesse de vous dire, attendez, il y a un apprentissage. Peut-être qu'on peut vous aider. Peut-être que votre corps, qui ne sentira pas tout, va être aidé par quelque chose de plus. Je trouve ça formidable et j'ai l'impression que ça marche depuis... Dites-nous si ça marche.
Oui, tout à fait, ça marche. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, on a lancé un deuxième produit et on s'est étendu à l'ensemble des sports de glisse. Mais pour faire simple, aujourd'hui, c'est près de 2800 utilisateurs qui, dans le surf, en l'occurrence, ont réussi à faire leur take-off grâce à nous. Donc, on est assez fiers de ça.
Vous parlez de ce que vous avez inventé après. Il y a effectivement de nouveaux projets. Justement, c'est pour aider à corriger les positions, voir ce qu'on peut améliorer une fois qu'on sait effectivement surfer.
Exactement. On a le schéma classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est debout sur la planche, qu'on sait surfer, eh bien, qu'est-ce qu'on fait après ? On a forcément envie de faire comme les surfeurs professionnels qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les publicités. Donc, pour ça, on a rendu notre outil, qui était déjà présent sur la planche, mais on l'aura dû connecter. C'est-à-dire qu'il enregistre l'ensemble du comportement de la planche, et à la fin de la session, le pratiquant peut synchroniser avec son téléphone. Il va retrouver, on va dire, un récap de sa session, où, si on prend l'exemple du surf, vague par vague, il va avoir ce qu'il a fait de bien, ce qu'il doit corriger. Et puis, il va avoir donc les conseils d'un coach virtuel qui, via des schémas, des légendes, des conseils écrits, va lui indiquer exactement quoi faire à la prochaine session pour progresser.
Donc, ça peut aider des débutants. Ça peut aussi aider des athlètes, des sportifs confirmés.
Exactement. Aujourd'hui, on est vraiment dans le produit qui se veut le plus versatile possible. Et on veut accompagner les pratiquants de la phase d'apprentissage jusqu'à la phase, j'ai envie de dire, de progression et même aller au-delà pour la préparation des athlètes aux compétitions internationales. Donc, il faut bien distinguer le produit aujourd'hui qui est commercialisé est un produit qui concerne les débutants et
combien,
les pratiquants pendant les 5 premières années.
Combien d'ailleurs d'écoles ou de personnes utilisent votre dispositif ?
Donc aujourd'hui, voilà, on a dépassé les 2500 utilisateurs de la techno. Ils l'utilisent dans le surf, mais également dans le skate et le snowboard.
Les sports de glisse. Hein.
Voilà, le produit peut s'utiliser et le capteur peut se détacher et se mettre sur tout type de planche. C'est l'avantage parce qu'en général, une personne qui fait du surf l'été va aller à la montagne l'hiver.
Elisabeth, je voudrais qu'on fasse un tout petit point sur l'industrie nautique française. Comment elle se porte ? Elle sort
de la
crise ?
Elle va beaucoup mieux. Elle sort de la crise complètement. Elle est en train de retrouver son meilleur niveau d'avant la crise de 2008, avec un chiffre d'affaires de plus de 4,5 milliards d'euros, 4,8 milliards d'euros exactement. Elle a une croissance qui s'est construite grâce à un développement international. En 10 ans, la production française exportée dans cette industrie est passée de 62 à 75% du total de la production réalisée. Donc ça va bien mieux.
Ça va beaucoup mieux et vous allez voir que c'est normal parce qu'on a beaucoup d'idées ici pour faire sortir ce secteur d'activité du marasme justement.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va rester en mer, mais cette fois avec un système qui vous permet de louer un bateau, même si vous n'en avez pas. Ça s'appelle Click & Boat. À tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1, vous êtes avec Raphaël Duchemin.
Quand l'été arrive, on rêve tous d'aller faire une journée en mer, hein, n'est-ce pas ? Il faut encore avoir le permis bateau, posséder une embarcation, sinon il faut passer par la location et c'est parfois très onéreux. Alors, deux Français ont eu une idée, pourquoi ne pas louer ceux des particuliers qui ne les utilisent pas ? Bonjour Edouard Goriot.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Click & Boat. Comme son nom l'indique, on clique et on loue un bateau. En regardant de près le marché, je crois que vous vous êtes aperçu justement que la plupart des propriétaires ne l'utilisaient que 10 jours par an. 10 jours, c'est quand même très peu.
Tout à fait, c'est très très peu. Et c'est ce qui nous a amené en août 2013 avec mon associé Jérémy, à partir de ce constat qu'il y a 1 million de bateaux en France qui sont utilisés seulement 10 jours par an et qui par ailleurs coûtent très cher à leurs propriétaires. Parce qu'il faut payer l'assurance, la place de port, l'entretien.
Oui.
Donc on s'est dit, il faut créer une plateforme qui va permettre à ces propriétaires de louer leurs bateaux en toute simplicité, en toute sécurité.
Alors 2013, c'est l'idée. 2014, c'est assez audacieux parce que vous quittez tous les deux vos jobs respectifs et vous décidez de vous lancer. Quelle est l'idée? Je pars en Bretagne, tiens, allez, après-demain, je vous contacte directement sur le site et je vais savoir quels sont les bateaux qui sont à ma disposition.
C'est exactement ça. On s'est rendu compte que pour les locataires, c'était très compliqué de trouver un bateau à louer à l'avance. Et que bien souvent, il fallait se rendre sur son lieu de vacances, aller dans la boutique, réserver un bateau. Quand on s'y prenait un peu tard, malheureusement, le stock n'était plus disponible. Aujourd'hui, avec clickandboat.com, vous allez sur le site, vous allez sur l'application mobile. Et maintenant, pour votre week-end au mois d'août, vous réservez un bateau très simplement.
Comment vous avez fait, vous, pour recenser tous ces propriétaires? Vous avez fait du porte-à-porte?
Alors, au début, ce n'était pas facile. On a commencé avec mon associé Jérémy en décembre 2013 au Salon Nautique, à aller à la rencontre de ces propriétaires. Donc, on a imprimé des flyers et tout simplement, on s'est mis à la sortie du Salon Nautique.
Et on vous a proposé, avez
voilà, exactement. On a proposé à ces propriétaires de louer leur bateau.
Il y a eu des réticences sur les questions d'assurance?
Alors,
ce
bien
genre
sûr,
de choses.
On proposait déjà une assurance à ces propriétaires. Il y a forcément eu des réticences, mais des réticences qui nous ont permis de bien comprendre quelles étaient les attentes du marché et justement d'adapter notre plateforme pour qu'elle soit très simple d'utilisation.
La difficulté, c'est qu'on n'a pas tous non plus le permis bateau. Vous proposez également des skippers pour venir justement naviguer avec nous?
Tout à fait. C'est justement ce qui est fantastique avec Click & Boat, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir son permis, il n'y a pas besoin d'être un grand marin pour partir s'amuser une demi-journée, une journée en famille, puisque 50% de nos bateaux sont proposés avec skippers. Donc, on peut découvrir très simplement la navigation en partant naviguer très, très simplement.
Mercedes, notre
là,
coach.
On a deuxième cas d'accessibilisation de la mer. Et voilà que je peux partir en bateau très simplement, surtout s'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe.
Oui, c'est mieux.
Et alors, comment c'est venu? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est le marché français? Où est-ce que ça se passe? L'Atlantique, la Méditerranée?
Ça se passe très bien et d'ailleurs on a décidé d'ouvrir la plateforme aux locataires étrangers. Aujourd'hui on a plus de 60% de nos locations qui sont faites par des locataires en dehors de France. Et justement cette notion d'accessibilité, cette notion de démocratisation de la plaisance, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Puisqu'aujourd'hui avec Click & Boat, il n'y a pas besoin d'avoir son permis, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour partir, naviguer, découvrir les côtes françaises qui sont absolument fantastiques. Très simplement, en 3 minutes, on peut réserver un bateau avec un skipper.
Vous dites on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Ça veut dire que c'est à portée de toutes les bourses aujourd'hui?
Tout à fait. À partir de 15 euros par jour et par personne, on peut louer un bateau avec un capitaine et partir s'amuser pour la journée.
Alors, pour répondre aussi à la question de Mercedes, effectivement, ça va bien parce que 2013, l'idée, 2014, ça démarre. Aujourd'hui, vous êtes 115 salariés. Vous êtes à Boulogne, à Marseille et aussi à Miami.
Tout à fait, nous sommes 115 aujourd'hui dans l'équipe, répartis sur 3 bureaux, donc Boulogne, Marseille et Miami, puisqu'on a commencé à développer le marché américain cette année. Et ça démarre très très fort, puisqu'aujourd'hui, 10% de nos clients sont des clients américains.
Elisabeth, combien d'entreprises aujourd'hui dans le secteur du nautisme?
Allez, j'ai un chiffre très, très précis, hein. 5468 entreprises qui travaillent dans le secteur du nautisme. Donc ça veut dire avec les ports, les constructeurs, les équipementiers, les loueurs, les prestataires de services. Ça correspond à plus de 40 000 salariés, 41 456 pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros au total.
Et quelles sont les régions qui travaillent le plus dans le nautisme?
Alors, la région Grand Ouest, hein, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre, qui génèrent le plus gros chiffre d'affaires en France, à hauteur de 34%, soit un peu plus de 1,5 milliard d'euros. Et ensuite, vous avez la région Méditerranée, avec 33% du chiffre d'affaires total.
Ça correspond à ce que vous faites aussi en termes de location de bateaux?
Tout à fait. La Méditerranée est vraiment un gros, gros centre de location, à la fois avec la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la Croatie.
C'est frontalier, qu'il y a des très beaux paysages aussi à visiter.
Et puis, je crois que vous avez trouvé un site qui permet de pouvoir stocker son bateau aussi.
Oui, ça s'appelle Je Stocke Mon Bateau. C'est une start-up marseillaise qui a mis en place. Elle met en relation des bateaux et des skippers, des plaisanciers qui recherchent un lieu ou laisser leur bateau avec des bateaux stockeurs. Ce sont par exemple des particuliers qui possèdent des mètres carrés, ils ne savent pas trop quoi en faire dans leur propriété. Hein, ça peut être un terrain, un garage, un entrepôt. Et ils peuvent compléter leurs revenus sur Je Stocke Mon Bateau en louant leur emplacement pour mettre le bateau pendant l'hiver.
Une intervention, je crois, de notre coach.
On a parlé tout à l'heure de votre associé, parce que dans ces histoires-là, le plus important, c'est de s'entendre. Et alors ? Vous entendez avec cet associé ?
L'entente est très très importante et la complémentarité est aussi très importante. Et je pense qu'on a une énorme chance justement d'avoir le plaisir de travailler au quotidien tous les deux et avec toute l'équipe. Et d'ailleurs, cette notion de plaisir au travail elle nous est très très chère et c'est pour ça qu'on a décidé d'installer nos bureaux sur une péniche à Boulogne et avoir un cadre de travail qui est très sympathique et qui permet à tout le monde de s'épanouir.
Et il y en a un en Bretagne et un à Marseille. Enfin, un qui venait de Bretagne et l'autre qui venait de Marseille.
C'est ça. Alors, Jérémy est marseillais, moi je suis breton. Donc, c'est aussi deux visions du nautisme très, très complémentaires.
Installé sur une péniche à Boulogne, effectivement. Ça vous fait loin de la Méditerranée et loin de l'Atlantique. Elisabeth,
j'ai une petite question. Au-delà du bateau, les skippers, vous les trouvez comment ?
Les skippers, alors, ouais. Ça peut être soit le propriétaire qui décide de rester à bord dans le cadre de la co-navigation, soit un skipper professionnel qui est proposé par le propriétaire.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez eu des business angels hein, qui vous ont suivi dès le départ dans ce projet. Ça, c'était important parce que, évidemment, il faut des gens qui croient dans le projet qu'on est en train de monter.
Tout à fait. C'est évident que les rencontres, et surtout les rencontres au début d'une aventure entrepreneuriale, c'est fondamental. Et on a eu beaucoup de chance de rencontrer ce groupe de business angels qui nous a fait confiance au début et qui a investi 200 000 euros au tout début de l'aventure Click & Boat. Nous a permis de démarrer, d'accélérer, de recruter.
On prend la mer aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec un bateau, mais qui ne va pas que sur l'eau. Oui, c'est possible. Wet & Craft a imaginé des roues sous la coque pour éliminer la corvée de la remorque. A tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h en direct sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin. Et si vous êtes friand de sport nautique cet après-midi, n'hésitez pas pour être en direct avec nous de composer le 39-21.
Un bateau, c'est fait évidemment pour aller sur l'eau, mais tout le monde ne laisse pas son embarcation au mouillage et sans place permanente. C'est vrai que ça signifie tractage et remorque. Bonjour Eric Divry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président fondateur de Wet & Craft. C'est une entreprise qui construit des bateaux amphibies. Alors, vous allez nous expliquer, parce que comment est-ce que vous est venue cette idée de construire un bateau qui aille à la fois dans l'eau et à la fois sur la route ?
Alors, l'origine de l'idée, c'est un besoin personnel qui n'était pas satisfait. J'adore naviguer, voile, bateau à moteur. Et notamment au niveau bateau à moteur, je voulais une solution très simple de mise à l'eau et sécure. De mon bateau. Je faisais notamment du bateau dans le sud de la France et se posait le problème, une fois qu'on mettait son bateau à l'eau, de qu'est-ce que je fais de la remorque ?
Oui.
Alors, selon les endroits, ce n'est pas toujours une problématique. En tout cas, là, ça l'était. Et donc, c'était de se dire... Et j'entendais parfois des plaisanciers dire « Tiens, ça serait sympa si la remorque pouvait être intégrée au bateau. » Et c'est comme ça qu'est venue, voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée.
L'idée, et on a l'image, hein, si vous nous suivez sur Europe1.fr, vous pouvez le voir, ce bateau avec des roues sous la coque, hein, je le disais tout à l'heure. Je crois que l'idée, elle est vraiment venue quand vous êtes parti en Nouvelle-Zélande. Et là, vous avez repéré
un
concept...
C'est en regardant des vidéos.
Ah, après, vous étiez allé en Nouvelle-Zélande,
non,
d'accord.
Et je compte bien y aller un jour.
Oui, pour
voilà,
voir.
Exactement. Cette idée, en fait, qui était de greffer des roues sur un bateau, je me posais la question si j'étais le seul à l'avoir ou si d'autres l'imaginaient. Et je pense que quand une idée est bonne, je pense que de toute façon, on n'est jamais seul à l'avoir.
Donc ce concept, vous le repérez en
2011 à peu près. Je le repère et je me dis, tiens, bah alors zut, je ne suis pas le premier. Mais ça m'a rassuré en me disant, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire sur ce produit. Et c'est comme ça que ça a germé, grandi et que... On a décidé vraiment de lancer un projet en 2014.
Oui, vous avez mis le concept au point à l'été 2015, c'est ça ?
Alors ça, oui, été 2015, rencontre avec mon architecte naval, j'avais l'impression de repasser un examen de passage, parce que moi, je ne venais pas du monde du nautisme. J'adorais le bateau, j'en faisais beaucoup. J'adorais l'automobile. On a un peu croisé ces deux mondes, d'ailleurs, dans ce produit. Et quand je lui ai présenté l'idée, dans ses yeux, j'ai compris qu'on touchait quelque chose. Il m'a beaucoup challengé le mois qui a suivi. Et en septembre 2015, en fait, on s'est rendu compte avec Vincent Le Bailly que notre Wetton, ce petit bateau qui avait une remorque intégrée, allait permettre de faire du bateau autrement. Je vais prendre un truc tout simple, c'est-à-dire que vous pouvez déposer votre bateau à une cale de mise à l'eau, et comme il n'y a plus la problématique de la remorque, un ami, quelqu'un d'autre peut vous rechercher beaucoup plus loin avec sa voiture, où vous êtes organisé. Et donc, c'était la façon même de naviguer. En fait, ça offrait d'autres façons de naviguer. Donc, on s'est dit, là, ça a du sens.
Donc, ces roues, elles sont sous la coque, qu'on comprenne bien. Elles se rétractent une fois qu'on est dans l'eau ?
Complètement. Et la meilleure image, elle est un peu technique, mais c'est souvent quand les gens nous ont découvert sur le salon. J'ai vu d'ailleurs des pilotes d'avion s'arrêter devant. Ils avaient l'impression de retrouver leur avion, dans le sens que, en fait, nos roues s'escamotent sous le bateau, exactement comme un train d'atterrissage d'avion. Et là, l'image, elle est forte pour moi, parce qu'un avion, aujourd'hui, on ne se pose pas la question si un avion, ça vole bien avec des roues. Et bien, c'est exactement le challenge qu'on est en train de faire avec un bateau. Finalement, il y a mis un train d'atterrissage, et on ne va pas se poser la question de savoir si les roues handicapent ou pas le bateau, parce qu'on l'a vraiment traité comme un train d'atterrissage d'avion.
Combien de roues, justement ? Une à l'avant, deux à l'arrière ?
Alors, deux roues centrales et une petite roue jockey à l'arrière. Terme encore technique, mais c'est pour expliquer que c'est finalement un peu comme une remorque. Donc, il va se poser sur ses trois roues, comme sur un trépied. Ça va lui permettre, en fait, de se déplacer tout seul en mode autonome pour gagner, en fait, le rivage. Et puis après, vous naviguez, vous rentrez les roues comme un train d'atterrissage. Et puis, à l'inverse, quand vous êtes sur la mer et que vous voulez atterrir, finalement, vous allez sortir vos trains d'atterrissage. Le bateau va sortir tout seul de l'eau et après, vous allez simplement l'accrocher derrière la voiture.
Mercedes, impressionnée ?
Oui, enfin, surtout... Je me dis que c'est toujours les choses qui semblent évidentes après qui sont géniales. En fait, c'est évident. On sort, comment on sort de l'eau ? Et ces histoires de remorques compliquées. Et voilà un bateau qui roule. Et alors, comment ça se passe ? Les gens sont intéressés par ce bateau évident, ce qui roule ?
Oui, alors ce qui nous a fait très... En fait, on a...
Vous avez présenté au Salon
Düsseldorf.
Oui, on a
présenté au Salon Düsseldorf. On a fait le choix du Salon de Düsseldorf en Allemagne pour la première année. C'était en 2018. On avait gardé complètement...
Pas évident comme choix.
Non, c'était... En fait, on l'a fait dans cet ordre. Je suis très heureux de l'avoir fait. On l'a fait au Salon Düsseldorf en Allemagne parce que j'ai eu l'occasion de travailler en Allemagne. J'apprécie beaucoup l'Allemagne et l'exigence du marché allemand dans sa rigueur était un bon test pour nous, et le regard des Allemands allait être un bon test
Torture
sur
test.
Le produit. Ouais, c'était tant qu'à faire, autant qu'on y aille vraiment, surtout que c'était le résultat déjà de 3 ans de R&D.
Et alors,
R&D.
Quel retour ?
Et on a fait le salon du nautique cette année,
oui.
Qui était aussi une très belle expérience. On était d'ailleurs innovation là, de l'année au nautique, enfin parmi les innovations.
Oui, parce que vous le lancez cet été.
Et on le lance cet été.
Alors, est-ce que vous avez déjà des commandes ? Est-ce que vous avez déjà des gens qui sont intéressés ?
Oui, alors aujourd'hui, on a une base de 800 contacts. On a une cinquantaine de personnes très intéressées. Et puis là, on a des rendez-vous avec ce qu'on appelle chez nous les prospects chauds, c'est-à-dire des gens qui veulent nous acheter le bateau, mais évidemment, ils veulent l'essayer avant.
Et,
c'est très amusant. On a plein de profils. En fait, on a des particuliers. On commence avec les particuliers, mais on a aussi des professionnels qui commencent à s'intéresser à nous. J'espère que ça fera son chemin. Par exemple, alors il n'y a rien de fait encore aujourd'hui, mais je pense notamment à des pompiers qui ont trouvé juste le concept génial parce qu'ils se sont dit, ce bateau-là, on peut aller le mettre à l'eau dans des cales étroites parce qu'on n'est pas embarrassé par la remorque. Alors soyons clairs.
Donc ça peut même améliorer leurs conditions de travail.
Eh bien, c'est bien ce qu'on espère. Voilà. Donc on a des touches à la fois de professionnels, donc de particuliers. Là, j'ai un petit jeune qui lance sa boîte dans le sud de la France. Et son concept, c'est de pouvoir louer des bateaux. Il est venu à nous parce qu'il s'est dit, tiens, c'est sympa, c'est un bateau que je vais pouvoir amener là où le client le souhaite et je peux le reprendre à un autre endroit. Voilà. Et donc là, après, on verra où le marché nous amène. Mais donc, à la fois des particuliers et des professionnels. Oui.
On reste ensemble et on continue à parler nautisme aujourd'hui sur Europe 1.
13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, on est en direct, hein, 3921, ça marche. Et Twitter, hashtag Europe 1, venez nous dire si vous êtes intéressés. Venez aussi poser vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge, à tout de suite.
Vous écoutez La France bouge jusqu'à 14h en direct sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et avec vous au standard Europe 1. N'hésitez pas, 39 21 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir via Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et nous sommes avec Mercedes Serra, qui est notre coach aujourd'hui, et Elisabeth Assayagela, bien sûr, et nos invités, Kevin Lestrade, cofondateur et directeur de By The Wave, qui fabrique un outil connecté, ou des outils connectés d'ailleurs, pour les sports de glisse, notamment pour le surf. Edouard Goriou, cofondateur de Click & Bot, une plateforme qui propose des locations de bateaux à la journée. Et Eric Divry, président fondateur de Wet On Craft, qui est une entreprise qui construit des bateaux amphibies. Moi, je voudrais savoir, ce bateau amphibie, outre le fait qu'on n'ait plus de remorque à tracter, c'est aussi la possibilité de mettre son bateau au sec, dans le garage, à la maison. C'est aussi un avantage parce qu'il s'use moins, il s'abîme moins.
Absolument, c'était aussi l'esprit alors, on voulait faire un produit durable et pour le coup, il devient d'autant plus durable qu'on peut le mettre à l'abri et du sel de la mer et du soleil. Et un des atouts de ce bateau, c'est que comme sa remorque est intégrée, je me souviens d'avoir un Breton mesurer son garage en disant « mais je peux gagner un mètre de longueur sur mon bateau » parce qu'on n'a plus la problématique, généralement, la remorque est plus longue que le bateau, donc vous pouvez rentrer votre bateau dans le garage. Et quand on a fait nos premières études de marché, c'était un point important qui ressortait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre gamme, là, on va proposer deux bateaux. Un bateau qui est aux dimensions voilà, d'un garage, un bateau de 5,50 m de long et qui a à moins de 2,34 m de large. Et puis, parce qu'on a aussi la demande sur des bateaux un peu plus grands, plus de longueur, donc on aura aussi un bateau de 6,50 m qui va venir.
Fabrication française ?
Alors, fabrication française, on y tenait. À travers ce projet, c'était pour nous mettre aussi en évidence les savoir-faire. Voilà. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose que j'avais très à cœur. Et c'était de fédérer des entreprises. Et en France, il y a vraiment du savoir-faire dans le milieu, bien sûr, du nautisme. Que ce soit la chaudronnerie pour la coque en aluminium, la partie composite, où on travaille avec des Bretons. Les flotteurs, c'est une grande marque de semi-rigide qui nous les fournit. Et puis nous, on assemble, un peu comme dans le métier de l'automobile, voilà, on assemble le tout pour faire un bateau sympa pour nos clients.
Elisabeth, des mix voiture-bateau, vous en avez trouvé d'autres ?
Oui, alors j'ai trouvé Tringa Boat. Ouais. C'est un bateau qui roule, hein, c'est un bateau avec un moteur à essence qui peut rouler à la vitesse de 16 km/h. Et en mer, un deuxième moteur de 150 chevaux va prendre le relais. La vitesse de navigation peut alors atteindre les 32-33 nœuds. C'est très pratique pour celles et ceux qui vivent à quelques kilomètres de la mer.
Donc là, c'est le bateau qui roule, mais on a aussi la voiture qui va dans l'eau.
Et on a la voiture qui roule dans l'eau, c'est la Lazarette Amphibie. Ouais. C'est une voiture de plage fabriquée à Annecy. C'est une voiture qui roule et qui flotte, 100% française. Là aussi, c'est grâce à son insubmersibilité qu'elle peut passer de la route à la mer en quelques secondes.
La fabrication française, c'est important, en tout cas pour nous ici. Vous y arrivez, Kevin, avec vos outils connectés pour le surf? C'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi?
Oui, tout à fait. Et je rejoins le discours d'avant. C'est quelque chose qui est super important. D'autant plus qu'en ce qui nous concerne, on est sur un marché très concurrentiel parce que notre produit a une grosse base de cartes électroniques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de produits électroniques, on a tendance à très vite imaginer de la fabrication étrangère. Il se trouve que depuis 2 ans, on est sur de la fabrication 100% française, donc même les cartes électroniques, pas simplement l'assemblage, tous nos composants viennent de France.
Comme quoi c'est possible.
Voilà, comme quoi c'est possible. Ça demande bien entendu un gros travail, ça demande un gros travail de sourcing, un travail de partenariat avec les usines. Donc on est très fiers de ça. Et aujourd'hui, même si By The Wave a une ambition très internationale avec des brevets qui ont été étendus maintenant en Australie, au Japon, aux États-Unis et puis bien sûr en Europe, la problématique pour nous reste de conserver notre coût de revient, on va dire le plus cohérent possible avec les prix du marché, pour garder une production 100% française.
La question de la fabrication française ne se pose pas pour Click & Bot. En revanche, est-ce que c'est une innovation française ? Ça n'existait pas, il n'y en avait pas de plateforme telle que la vôtre.
Alors, on avait un concurrent dans quasiment chaque pays, puisque cette idée des bateaux qui dorment et qui sont sous-utilisés, on n'est pas les seuls à l'avoir eu avec Jérémy. Mais aujourd'hui, on est bien sûr une entreprise française, très internationale, puisqu'on a plus de 15 nationalités dans notre équipe. Mais une boîte française.
Avec combien de pays desservis aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a plus de 30 000 bateaux dans plus de 50 pays.
Je crois qu'on a une question, oui. Blin, sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oui, les bateaux qui vont dans l'eau, ont-ils des plaques minéralogiques avec des feux pour l'autorisation de rouler, j'imagine, sur la route ?
Question pour Eric Divry, de Wet On Craft.
Alors, c'est ça qui est amusant, c'est que notre société, nous sommes à la fois constructeurs de bateaux, je crois qu'on est la seule au monde à être pour l'instant à la fois constructeurs de bateaux et constructeurs de remorques. C'est-à-dire que ce bateau a une carte grise de remorque d'un cheval. Et donc, oui, effectivement, il va être dûment immatriculé avec des feux. Et un des enjeux, d'ailleurs, était, en termes de design, c'était que le bateau ne soit pas du tout perçu, par contre, comme un bateau allant sur route quand il était en mer. Donc, ces aspects-là disparaissent complètement, en fait, quand on est en navigation. Et il va mettre 3 minutes pour se transformer en remorque, dûment homologué, avec sa plaque numérologique et ses feux, effectivement.
Merci, oui, Edouard, vous avez grandi aussi, parce que vous avez eu le courage, très vite, de racheter.
Tout à fait, on a racheté 2 concurrents en France. Et on a vraiment une stratégie de croissance organique et externe en faisant d'autres acquisitions.
Et comment se sont passés ces rachats? C'est jamais évident.
Très bien, très bien. Je pense que ce qui est vraiment important, de véhiculer les valeurs de l'entreprise aux sociétés qu'on intègre. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel on met beaucoup d'énergie.
Juste une dernière question. La suite, vous la voyez comment, les uns et les autres? Développement encore plus à l'international. Alors, lancement pour vous, on a bien compris, hein, pour Wet & Craft, vous nous rappellerez dès que vous avez les premières ventes. Mais pour vous, Kevin, et pour vous, Edouard, la suite, c'est forcément en dehors des frontières de France?
Bah écoutez, la suite, ça va être déjà de vous inviter à venir surfer dans les Landes. Pour
alors
vous
là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. On voit que vous ne m'avez jamais vu sur une planche.
Non, je dirais que la suite, effectivement, c'est de continuer à asseoir cette crédibilité. Quand on est une start-up jeune, c'est important de montrer que nos produits sont fiables, sont performants. Et donc, pour asseoir cette crédibilité, ça va tout simplement passer par une utilisation la plus large possible, à la fois chez les professionnels et les pratiquants.
Même chose, vous, c'est développement aussi, hein, Maxi?
Tout à fait, et donc continuer à grossir sur des marchés sur lesquels nous sommes déjà, comme par exemple les États-Unis, où on est vraiment tout au début de notre développement, et on commence aussi à s'intéresser à des nouveaux marchés, comme l'Asie, comme l'Australie, qu'on commence à regarder.
Merci à tous les trois d'être venus parler nautisme aujourd'hui avec nous sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, boire c'est juste, c'est comme croquer dans un fruit. Alain Mia et l'entreprise qui va bien, merci, c'est juste après la musique.
Europe 1.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et on voit ce qui va bien aujourd'hui.
Oui, cette entreprise qui va bien, c'est la vôtre. Alain Mia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vos jus de fruits sont désormais connus dans la France entière et même au-delà. Mais votre histoire l'est peut-être un petit peu moins. À la base, vous êtes agriculteur, profession qui était, je crois, celle aussi de votre père. Et ce métier, vous l'avez exercé pendant 15 ans. Et en 97, si mes dates sont bonnes, vous avez envie d'aller un peu plus loin. Et vous cherchez un moyen de valoriser les produits qui sont les vôtres. Il faut dire que vous êtes au bon endroit. On est dans la Drôme, on est au milieu du pays de l'arboriculture.
Alors, l'histoire est vraie, vous êtes bien renseigné, mais je ne suis pas dans la Drôme. C'est l'unité de production qui est dans la Drôme, mais moi, ma ferme, en fait, elle est au sud de Lyon.
Oui.
Voilà.
Mais vos produits, la plupart de vos produits sont traités dans la Drôme.
Alors, en fait, effectivement, les matières premières, donc les fruits frais que nous achetons, sont... De mémoire, je crois qu'on a 70% du volume qui est acheté à moins de 100 km de l'unité de production. Donc, effectivement, il y a un achat très raisonné parce qu'on a aussi une des plus belles zones de production fruitière de France. Oui.
Pourquoi à ce moment-là, en 1997, vous avez cette idée? Qu'est-ce qui vous motive? Il y a un changement qui s'opère dans votre tête? Vous vous dites, il faut aller...
Oui, je me suis transformé.
Ça arrive, hein.
Peut-être que j'avais fait un peu le tour de mon métier de producteur de fruits, on va dire. Et puis, je voulais un peu voir, je reprends souvent la phrase, voir ce qui se passait de l'autre côté de la clôture, oui. Quelque part.
Mais curiosité, alors.
Un peu de curiosité, oui. Un peu de curiosité. Et puis, peut-être me confronter à d'autres professions, d'autres milieux. C'est vrai que le métier de producteur de fruits est très prenant, en fait, très énergivore, très chronophage. Et donc, prendre le risque d'aller voir ailleurs, c'était pour moi très intéressant. Ouais.
Lever un peu le nez du guidon. Et finalement, ouais. Avec les fruits, le plus simple, c'est la transformation des fruits.
Oui, c'était de transformer en fait, mes productions pour les valoriser. Parce que le marché du fruit frais n'était pas très... La filière du fruit frais n'était pas en très grande forme à cette époque-là. Donc, c'était le moyen, effectivement, de transformer. Et pour démarrer, et pour se confronter à des avis très professionnels, j'ai pris le... Guide Relais Château à l'époque, et j'ai pris 60 adresses au hasard des feuilles, et je les ai appelées, j'ai appelé sommelier, je dis ben voilà, je fais des jus de fruits, j'aimerais bien avoir votre avis, Ils ont été super sympas, 55 ont répondu, et voilà, l'histoire c'est a parti. Commencé comme ça, tout simplement. Quoi.
Alors, au début, vous lancez, mais c'est un prestataire qui réalise, vous étiquetez, vous mettez dans les cartons, puis petit à petit, vous vous dites, mais je sais le faire, je peux le faire, je vais peut-être tout faire moi-même.
Exactement, donc ça a duré 10 ans avec le prestataire, et puis je voulais prendre mon indépendance pour être encore avoir plus la main sur la qualité, sur la création, et donc ça me permettait d'être... plus indépendant et vraiment de maîtriser, de tout intégrer. Oui.
Vos premiers produits, les premiers, ceux que vous amenez justement dans les 60 relais châteaux, jus de poire, c'est ça?
Alors, il y avait un nectar de poire d'automne sur une base de passerassane, il y avait un nectar d'abricot, bergeron, il y avait un jus de pomme, rainette grise du Canada, il y avait aussi un nectar de poire William, et il y avait un nectar de pêche de vigne.
Et ceux-là sont toujours aujourd'hui dans vos productions?
Alors, ils y sont toujours, sauf un seul qui est passé de nectar à jus de poire d'automne, puisqu'on a réussi à faire un pur jus de poire avec cette passerassane.
Oui. Oui, vous avez réussi à faire d'ailleurs 38 parfums aujourd'hui, c'est énorme.
Alors plus précisément 38 parfums mono-espèces ou mono-variétales. Donc on peut avoir qu'une seule variété ou quelquefois des blends, comme par exemple sur le jus de tomate rouge, on a trois variétés. Qui permettent effectivement d'équilibrer les arômes, les textures, les fins de bouche, l'éclat en début, voilà.
Que dit notre coach, Mercedes?
Elle veut comprendre, après les relais châteaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien...
Ils ont dit que c'était bon, a priori.
Alors, en fait, ah oui,
55 sur 60, oui.
Non, 55 ont répondu. Ont accepté de jouer le jeu.
Voilà, et après?
Et il y a quand même une référence dans les 6 que je proposais qui avait fait l'unanimité des 55. Et les autres, c'était 45, la poire d'été. Alors, je sais pourquoi, c'est parce que la poire d'été, un état de poire d'été est fait à base de William, et la William, c'est la variété utilisée pour les eaux de vie de poire, et donc ils l'avaient en mémoire olfactive, en mémoire gustative, donc c'est pour ça qu'ils l'ont aimé, quoi, voilà, tout simplement. Ouais. Elle n'était pas forcément meilleure.
Peut-être parce que c'était bon aussi.
Parce que c'était des sommeliers.
Oui, c'était bon,
et voilà, des sommeliers avec une culture de sommeliers.
La preuve, vous vous êtes développé aujourd'hui, 7 millions d'unités, c'est ça?
À peu près, oui.
Comment est-ce que vous avez fait pour qu'on ait, à chaque fois, la sensation de mordre dans le fruit?
Alors, en fait, s'il fallait donner un chiffre, je dirais que les deux tiers de la capacité qu'a un produit à surprendre, en fait, vient de la matière première. Et donc, il faut la bonne variété, pas forcément au bon endroit, parce que partout dans le monde, il peut y avoir des très bonnes variétés. On parle souvent de la fraise de Dordogne, mais elle est très bonne aussi en Bretagne, très bonne dans la région de Wépion en Belgique ou au Danemark. Donc voilà. Mais c'est surtout... la variété et le niveau de maturité. Ce qui est hyper important, c'est le niveau de maturité. À un moment donné, il y a un équilibre qui s'opère entre le sucre et l'acide, et les arômes vont pouvoir s'exprimer, et c'est là que j'interviens. Mon job, en fait, est d'être au début pour la sélection, donc rien ne rentre tant que je ne goûte pas, et à la fin, pour valider ce qui est produit.
Et ça donne des jus de fruits formidables. Des confitures aussi.
Mais vous avez aussi des confitures, Alain Milliat.
Oui, je fais aussi des confitures.
Vous n'avez pas l'air d'assumer. Pourtant, elles sont délicieuses.
Oui. Vous avez une fan, hein, ici, des confitures.
Alors, je l'assume très bien.
Introuvable.
Je l'assume très bien. Mais ça me touche moins parce que pour s'appeler confiture, en fait, il faut, d'après la réglementation de Bruxelles, avoir 55% de sucre total. Et je ne suis pas... Je trouve que ce minima en fait imposé par la législation est trop élevé. Voilà. Donc, ça m'embête un peu de mettre.
Et pourquoi vous ne proposez pas autre chose qui ne s'appellera pas confiture et qui sera votre confiture à vous, qui ne s'appellera pas confiture?
Il faudrait juste attendre un tout petit peu. Alors. Voilà.
c'est peut-être bien... en projet.
Voilà.
Ce sont les jus de fruits et la marque Alain Milliat. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin. Et on va s'équiper aujourd'hui d'un sac à dos qui se recharge à l'énergie solaire et qui peut vous permettre de charger votre smartphone. C'est la solution dans un instant.
Vous écoutez Raphaël Duchemin sur Europe 1, la solution dans la France bouge.
Oui, vous partez peut-être en randonnée ou en voyage, vous n'êtes pas certain de pouvoir charger votre téléphone. Elisabeth, il y a une solution, ça s'appelle Régig.
Oui, Régig, c'est tout simplement un sac à dos solaire grâce à son panneau solaire. Un panneau solaire à cellules de dernière génération et grâce à sa batterie de haute capacité, ce sac à dos vous permet de ne plus jamais être à court de batterie. Et en plus, c'est un sac à dos élégant. Bonjour Jean Mochauffé.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Régic. Vous avez apporté votre sac à dos intelligent avec vous, que vous pouvez voir, chers auditeurs, en direct sur Europe1.fr. Qu'a-t-il de si particulier et comment ça marche ?
Alors, c'est un sac à dos donc solaire. Donc, il est équipé d'un panneau solaire sur sa face avant qui permet de recharger une batterie, une petite batterie qui est glissée à l'intérieur du sac à dos, qui est reliée au panneau solaire grâce à un câble USB. Et on peut ensuite recharger tout type d'appareil mobile qui se branche en USB directement sur la batterie.
On le branche ou...
Alors, on branche...
Sur la batterie du sac à dos.
Son smartphone en USB sur la batterie du sac à dos, tout à fait.
Alors, cette idée, vous l'avez eue avec votre cofondateur. C'était au retour d'un voyage, vous étiez votre cofondateur était en Tasmanie, je crois que c'était il y a 2 ans, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Et que s'est-il passé pour en arriver là ?
Alors, l'idée commence, enfin, l'histoire commence en août 2017. Jonas est en Tasmanie et il se trouve à court de batterie en prenant une photo avec son smartphone. Et à ce moment-là, il se dit que ça serait vraiment bien si sur le sac à dos que j'ai sur le dos, si je pouvais avoir un panneau solaire, mais aussi avoir un sac à dos esthétique, design, et avec un panneau solaire qui est complètement intégré au sac. En rentrant, il m'en parle, en train de voyage, il m'en parle, et très rapidement, le projet se développe, se concrétise, et on lance ensuite Régic via une campagne de financement participatif qui permet donc de tester le marché et aussi de prévendre finalement les sacs à dos et donc de financer notre premier stock.
Et quand vous dites très vite on arrive à le mettre au point, mais ça a été long, enfin, faut avoir des talents particuliers quand même, faut pouvoir le concevoir ce sac.
Alors en septembre 2017, on contacte une amie qui est designer. Très rapidement, elle dessine le sac à dos, elle fait des plans techniques. Et à la fin de l'année 2017, on avait trouvé des fournisseurs qui étaient capables de réaliser les plans techniques que l'on avait réalisés. Et en parallèle, une étudiante ingénieure nous aidait sur le développement technologique.
La technique.
Pour être à la pointe aussi de la technologie.
Mercedes,
aujourd'hui, vous en êtes où exactement ?
Alors aujourd'hui, on a vendu près de 400 sacs à dos. Essentiellement sur notre site web et chez des revendeurs, donc dans des concept stores. En France, un peu partout en France, et on vend aussi, un peu de B2B avec des entreprises qui achètent les sacs à dos pour les offrir, par exemple.
Le problème, peut-être, dites-moi si je me trompe, c'est le poids. Il est plus lourd qu'un sac à dos normal ?
Alors, il fait un peu plus d'un kilo. Il est à peine plus lourd qu'un sac à dos normal parce que le panneau solaire est très léger et la batterie, c'est une petite batterie de 5000 mAh, mais qui est assez légère. Donc, il est à peine plus lourd qu'un sac à dos standard.
Il coûte combien ? Parce que vous avez parlé de prix tout à l'heure, mais...
Alors, il coûte 129 euros. Et il comprend, bien évidemment, le sac à dos, le panneau solaire et la batterie qui est à l'intérieur du sac à dos.
J'imagine que vous l'avez breveté, cette idée.
Alors, on n'a pas breveté cette idée.
Quoi ?
Il faut breveter.
Il faut breveter.
On ne l'a pas breveté parce que c'est assez compliqué à breveter, finalement. Il y avait des sacs à dos qu'on pouvait trouver sur le marché avec des panneaux solaires. Donc c'est assez compliqué à breveter le panneau solaire qui est intégré au sac.
Ça s'appelle Régig, c'est ça ?
R-E-J-I-G.
Et on les trouve sur votre site ?
Sur le site web, donc R-E-J-I-G.fr. Et on peut le trouver aussi dans des concept stores.
Merci d'être venu nous proposer cette solution. C'est bien pratique quand on est en montagne et qu'on a besoin, par exemple, de passer un appel en urgence. On peut recharger son smartphone. Merci à Mercedes qui était notre
Merci,
coach
c'était un plaisir.
Aujourd'hui. Elisabeth,
à
on
demain,
se donne rendez-vous
Raphaël.
Demain. On va s'intéresser demain aux solutions pour faire des économies d'eau.
Merci Raphaël Duchemin, c'était La France Bouge sur Europe 1 et vous restez avec nous. On Delatte raconte à partir de 14h, Christophe Ondelatte qui vous raconte une folle aventure en kayak dans les glaces de la côte est du Groenland. La folle aventure d'Albin Michon et Vincent Berthet. À tout de suite.